RCF.
Parmi les axes forts du carême, il y a le jeûne. Il s'agit, au cours des 5 semaines de préparation à Pâques, de vivre une forme de privation de ce qui nous rend dépendants. Longtemps, cette privation a porté sur la nourriture, mais aujourd'hui, elle peut concerner tous les outils numériques, par exemple, dont nous sommes devenus esclaves. Mais dans le cadre de ce carême, ce n'est pas tant la question du jeûne que nous allons aborder que celle de la sobriété. Alexandre Masson, bonjour.
Bonjour Véronique.
Vous êtes jésuite en formation et nous allons donc réfléchir avec vous à cette question de la sobriété dans Halte Spirituelle. C'est un sujet qui vous intéresse particulièrement, d'autant que vous êtes membre de l'équipe du centre spirituel du Châtelard, qui est désormais un éco-centre spirituel. Cette maison jésuite se trouve tout près de Lyon, dans la banlieue lyonnaise. Et donc, on aura l'occasion d'en parler dans ces entretiens. Mais d'abord, j'aimerais que vous nous disiez comment vous vivez le carême, ce que ce temps représente pour vous et la place du jeûne que traditionnellement on y accorde.
Pour moi, le carême, c'est un temps de préparation à Pâques. Je dirais que c'est un temps de conversion. Un temps pour regarder peut-être davantage de plus proche le Christ, la manière dont il a vécu, et puis un temps peut-être pour raviver mon désir de le suivre et de l'aimer et de vivre à sa manière. Ça passe par des petites attentions à des choses qui, habituellement, on va dire dans le quotidien, passent un peu aux oubliettes. Voilà, telle relation avec tel collègue de travail dont j'aimerais davantage prendre soin, tel moment vécu en communauté avec les frères jésuites, telle attention à la prière. Je dirais, je passe par des petites choses, sentir aussi où est-ce que, là où, le point où j'en suis, dans mon quotidien, dans l'équipe de l'éco-centre spirituel jésuite, dans ma communauté, dans d'autres lieux où je suis envoyé en mission. C'est quoi le petit pas de plus pour vivre vraiment de la mort et de la résurrection du Christ?
Alors vous venez de parler de la prière, ça fait partie des 3 grands axes sur lesquels on est invité à se pencher plus particulièrement pendant cette période. Donc il y a la prière, il y a le partage ou l'aumône, comme on disait avant, et le jeûne. Comment ça résonne pour vous, ce terme de jeûne?
Si l'enjeu du carême, c'est de regarder de plus près le Christ, le mieux le connaître pour mieux l'aimer et le suivre, le jeûne, comme avec le partage ou la prière, en fait, l'enjeu, c'est de lui faire de la place au Christ. Et donc, le jeûne, ça vient toucher, en fait, dans ma vie, ce à quoi je suis attaché, parfois pour des raisons légitimes. Souvent, on pense jeûne de nourriture, par exemple, on a besoin de se nourrir. Mais en même temps, quelle liberté je trouve par rapport à ces choses matérielles, par rapport à ces enjeux. Ça peut être aussi jeûne de relation, vous avez parlé des écrans tout à l'heure. Finalement, toutes ces choses bonnes en soi dans ma vie, est-ce que parfois elles prennent pas trop de place au point de me faire oublier l'essentiel? Et donc le jeûne, ça vient toucher ça, ça vient toucher retrouver des marges de liberté, parfois me priver de choses qui font partie de mon quotidien, qui sont pas mauvaises.
Mais excessives.
En tout cas, si je les absolutisais, me ferait oublier la fin pour laquelle je suis créé, pour reprendre les mots d'Ignace, qui est louer, respecter, servir le Seigneur à travers aussi mes frères et sœurs.
Pour beaucoup de gens, le mot carême, ça fait écho à pénitence, à du sacrifice, à un effort. C'est comme ça que vous l'envisagez, vous? Un temps de pénitence?
Je dirais, tout dépend comment on entend le mot pénitence. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il est très chargé ou connoté négativement. Pénitence, ça veut dire aussi reconnaître, là en l'occurrence, mes péchés, en éprouver de la tristesse pour les péchés que j'ai commis, mais que cette tristesse soit pas quelque chose dans lequel je m'enferme, mais au contraire quelque chose qui me conduit à aller de l'avant, à accueillir aussi le pardon du Christ, offert par le Christ, et donc aussi à me laisser renouveler dans ma vie, me laisser transformer, me laisser relever, pour vivre davantage de la vie de Dieu. Donc je pense que la pénitence, c'est un chemin vers une vie plus pleine, plus dense, plus vivante.
Goût.
Voilà, exactement.
Vous disiez il y a un instant, Alexandre Masson, que le carême, c'est un temps qui nous permet d'aller plus vers ce qui nous fait de nous des vivants, vers ce qui nous rend plus vivants. Or, il se trouve que cette année, sur RCF, on a choisi comme thème du carême cette phrase du livre du Deutéronome dans l'Ancien Testament, au chapitre 30. C'est Dieu qui s'adresse à son peuple à travers la bouche de Moïse et qui dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » Ça consonne avec ce que vous venez de dire là?
Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce passage du Deutéronome, c'est, on peut dire, la liberté, j'allais dire, et de Dieu et de l'homme. C'est-à-dire, je mets devant toi la vie et la mort, le bonheur, le malheur. Bah, ça renvoie, enfin, chacun a, on peut dire, ses responsabilités. C'est-à-dire, il y a la possibilité de choisir. C'est là où, pour reprendre une question que vous me posiez tout à l'heure, il peut y avoir un enjeu, il peut y avoir un effort, voilà, parce que bah, poser un choix, bah, ça peut coûter. Et en même temps, bah, ça dit aussi profondément qui nous sommes, ça dit que l'être humain est libre, est voulu et créé libre par Dieu. Et donc, je dirais, c'est une bonne nouvelle. Voilà, ça veut dire que ce que je vis dans ma vie qui peut m'entraver, eh ben, j'en suis pas esclave, j'ai une marge de liberté et il y a un chemin possible.
Mais ce qui nous conduit vers plus de vie, vers un plus de vie, n'est pas forcément le chemin le plus facile?
Je ne crois pas, en fait. Je pense qu'il y a une dimension aussi de combat, combat spirituel. C'est la prière lue par le prêtre le mercredi décembre, juste avant les lectures. Il dit, bah, voilà, ce temps de carême, c'est un temps aussi pour prendre des forces pour s'entraîner au combat spirituel, voilà, parce que justement il y a des choses auxquelles on tient ou qui nous retiennent ou qui nous attachent, qui peuvent parfois faire obstacle à ce mouvement de conversion que pourtant on désire, quoi. Ou alors ça me fait penser à saint Paul qui dit, bah, le bien que je voudrais faire je ne le fais pas et le mal que je ne souhaite pas, bah, il m'arrive d'en vivre. On est travaillé par des tensions, des contradictions.
Et des paradoxes.
Et des paradoxes. Voilà. Et donc, bah, ce chemin de jeûne ou de sobriété, pour reprendre le thème de notre émission, eh ben, c'est un chemin justement aussi pour apprendre à redécouvrir, tout à l'heure vous disiez aussi le goût. Donc c'est paradoxal parce que se priver de nourriture, ça peut nous apprendre à, se jeûner de nourriture, ça peut nous apprendre à redécouvrir le goût, paradoxalement, c'est-à-dire faire de l'espace en nous pour accueillir le Christ. Ça peut nous aider aussi à retrouver le relief, la saveur des choses qui font notre vie, des choses vraiment importantes, d'autres moins, pour pouvoir retrouver de la liberté et pour reprendre le mot du Deutéronome, choisir davantage la vie et un peu moins le malheur.
La sobriété, ça peut être un synonyme du jeûne, ou en tout cas une autre manière d'aborder la question du jeûne.
Ben, je dirais, pour moi, la sobriété, c'est un mode de vie. Enfin, en tout cas, pour moi, ça résonne très fort du côté de Laudato Si, donc l'encyclique du pape François, qui parle de l'éducation et de la spiritualité écologique dans le dernier chapitre de Laudato Si, et qui prône la sobriété comme un chemin chrétien, comme mode de vie plus écologiquement responsable et puis conforme aussi à ce à quoi nous appelle le Christ. Donc je dirais plutôt ça comme ça. Ouais.
D'autres l'avaient utilisé avant lui.
Tout à fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce n'est pas du tout spécifiquement chrétien et qu'on retrouve ça par exemple chez Pierre Rabhi.
Avec la fameuse sobriété heureuse.
Et puis chez d'autres, donc ça aide aussi, c'est un mot peut-être aussi moins connoté religieusement que jeûne. Après le jeûne, je pense qu'il y a quelque chose du côté d'un effort de conversion. Là où la sobriété, et donc c'est ponctuel aussi le jeûne, on jeûne pas toute l'année. Alors que la sobriété, je dirais que c'est quelque chose dans laquelle on est invité à entrer et à adopter.
De manière quasi définitive.
On pourrait dire ça, oui.
Alors là encore, c'est un terme qui est un peu surprenant. On a vécu des décennies d'opulence, de surconsommation, les fameuses 30 glorieuses, que certains appellent d'ailleurs les 30 désastreuses. On est toujours plus intelligent après. Mais aujourd'hui, on aspire, enfin un certain nombre de nos contemporains aspirent à lâcher ce mode de vie.
Bah, c'est une bonne question. C'est-à-dire, effectivement, j'entends très fort une critique de la société de consommation, de modes de vie qui ont été adoptés après-guerre, on peut dire. Et puis une conscience de plus en plus vive que nos modes de vie occidentaux et puis le train de la croissance économique tel qu'on l'a envisagé ces dernières décennies, en fait, ces manières de vivre et cette manière d'envisager le progrès ne sont pas viables ou ne nous conduisent pas finalement à un mieux vivre. Donc il y a à la fois cette prise de conscience, à la fois on voit bien quand même que c'est pas si simple que ça de changer de représentation de ce que c'est qu'une vie bonne, de désirer autre chose, de goûter à autre chose. Je pense que ça reste... vous parliez des écrans. Ça continue. On continue à avoir envie d'avoir un téléphone, peut-être dernier cri, qui fonctionne bien. On continue à être intéressé par tel vêtement, par tel voyage à l'autre bout du monde. Donc c'est ça, je dirais, il y a quand même une forme de contradiction dans nos sociétés, quoi, entre à la fois une conscience plus vive des enjeux écologiques et en même temps, dès qu'il s'agit pour soi de s'y mettre, eh ben c'est plus compliqué, quoi.
Alexandre Masson, vous avez parlé de Laudato Si, cette encyclique du pape François qui a fait date et qui a été accueillie avec quasi à l'unanimité beaucoup de surprises et de bonnes surprises, qui a créé une bonne surprise. Et il est donc question de sobriété dans cette encyclique. De quelle manière le pape François parle-t-il de sobriété ?
Le terme de sobriété arrive dans la dernière partie de l'encyclique. En fait, après avoir fait un diagnostic de la situation, à la fois d'un point de vue scientifique, en rappelant aussi ce que dit la Bible, l'Évangile de la création, en pointant la racine de la crise écologique dans la responsabilité en fait humaine, et en invitant à une écologie intégrale. Dans le cinquième chapitre, le pape François dresse des pistes d'action plus politiques, notamment au niveau international. Et dans la dernière partie, on pourrait dire plus, qui s'adresse plus spécifiquement aux chrétiens, il invite à une éducation et une spiritualité écologique. Et c'est dans cette dernière partie que le terme de sobriété apparaît. Donc c'est une partie qu'il appelle joie et paix. Il dit « La spiritualité chrétienne propose une autre manière de comprendre la qualité de vie et encourage un style de vie prophétique et contemplatif capable d'aider à apprécier profondément les choses sans être obsédé par la consommation ». Ça, c'est au numéro 222. Et après, il va détailler ce qu'il entend par sobriété. Et il montre que cette sobriété, loin d'être quelque chose de pénible ou de rébarbatif, ça peut être vécu avec liberté et quelque chose qui peut en fait être profondément joyeux et avoir du goût.
Pour en revenir au goût.
Et voilà, exactement.
Pourquoi la sobriété, ça peut être joyeux ?
Ce que dit le pape, c'est que en étant moins dans le zapping et dans la consommation un peu de tout ce qui nous passe sous le nez, en prenant un petit peu de recul, en se posant la question de ce dont on a besoin, en appréciant les choses aussi qu'on choisit du coup de consommer ou de s'approprier, eh ben ça donne de l'espace pour vivre les choses plus intensément. Il dit que c'est pas forcément en quantité que la vie a de la valeur, mais c'est plutôt dans la qualité de ce qu'on fait. Et ça me fait penser aussi à une phrase d'Inès de Loyola qui dit que c'est pas de savoir beaucoup qui rassasie l'âme, mais c'est de sentir et goûter les choses intérieurement. Donc je pense que le pape François, il invite, par ce terme de sobriété, par cette invitation à la sobriété, il invite à reprendre conscience de la valeur des choses. Et qu'en fait, par exemple, un week-end avec des amis à la montagne, en Chartreuse, ça peut être aussi ressourçant ou plus que de passer 3 jours à Barcelone ou dans une capitale européenne, d'y aller en avion, de revenir, voilà. Et encore, Barcelone, c'est pas si loin, mais on peut imaginer Dubaï ou New York, voilà. Voilà, je crois que c'est ça, l'invitation à la sobriété heureuse, c'est, il dit aussi moins égale plus, quoi. Avec moins, parfois, il peut y avoir plus d'intensité.
On dit moins, mais mieux aussi, parfois.
Voilà.
Alors, c'est aussi, dans son esprit, synonyme de contemplation et probablement de ralentissement. Mmh. Comment ça s'articule ? Sobriété et contemplation, est-ce que c'est absolument lié ?
Enfin, ce que vous dites, ça me fait penser à une des choses qui pointe dans la racine de la crise écologique. Il dit, en fait, l'homme n'a jamais cessé de travailler à la nature. En fait, depuis le début, et même quand on revient au premier chapitre de la Genèse, il y a une invitation de l'homme à cultiver, à garder le jardin dans le deuxième chapitre. Mais peut-être ce qui a changé, ou ce qui devient plus problématique ces derniers temps, et notamment lui, il pointe ça avec la révolution industrielle et l'époque moderne, il dit, en fait, on est passé d'un temps où l'homme entrait en relation avec la nature en lui tendant la main, amicalement, Et là, en fait, à travers les ressources énergétiques énormes qu'il a trouvées et qui lui ont permis de se développer aussi, il ne faut pas cracher sur tout le progrès technique, médical, technologique, etc., dont on bénéficie. Mais il dit finalement, ça fait qu'on est passé d'un rapport où on se tendait amicalement la main à un rapport où l'homme finalement a mis la main sur la nature et où il la considère essentiellement comme une ressource à exploiter à son service. Et en fait, la sobriété, je pense que c'est une invitation à changer ma manière d'entrer en relation avec cette nature, se rappeler que je suis membre d'une création, c'est-à-dire que c'est pas simplement la nature, c'est la création, et j'en fais partie de cette création. Et du coup, d'avoir un rapport à l'altérité de la création, de la nature, qui soit plus respectueuse. Et ce rapport contemplatif, ça aide justement à reprendre une distance, à revoir que cet arbre, cette plante, telle personne, en fait, c'est aussi des créatures de Dieu.
Est-ce que vous voyez dans cette relation que le pape nous invite à renouveler avec la création l'enjeu d'arrêter de vouloir tout posséder et d'avoir une forme de toute puissance à l'égard de ce qui nous entoure? Tout est possible ou beaucoup de choses le sont, mais est-ce que, parce que tout est possible, tout est souhaitable?
Oui, c'est sûr que pour le pape François, il y a le problème de la crise écologique, provient de, on pourrait dire, d'un abus de pouvoir de l'homme sur la création qui lui a été confiée. Et certes, il a une place particulière dans cette création, puisque Dieu lui confie pour qu'il la cultive et qu'il la garde. Mais c'est pas parce qu'il a une place particulière que qu'il a le droit de tout faire. Et c'est pas parce que effectivement, il en a la possibilité. Possibilité décuplée grâce à la révolution industrielle, au pétrole, au gaz, etc. C'est pas parce qu'il en a la possibilité qu'il a le droit de tout faire. Voilà. Et certainement, le pape François pointe un abus de pouvoir.
Ça pose la question de la limite aussi. Et puis si on en revient au texte de la Genèse, l'homme et la femme peuvent disposer de la totalité du jardin, sauf d'un arbre. Mais c'est celui-là qu'ils veulent aussi.
En tout cas, c'est la ruse du serpent de leur avoir fait désirer, effectivement, et d'avoir introduit en eux le doute quant à la bonté de Dieu qui, pourtant, leur avait donné tout ce jardin. Ouais. Et oui, on est tout à fait dans ce point.
C'est consentir aux limites aussi.
Voilà, et la sobriété, c'est peut-être se rendre compte qu'en intégrant des limites dans ma vie, je ne serai pas forcément moins heureux, ou ma vie ne sera pas forcément moins belle, ou je ne serai pas forcément passé à côté de quelque chose d'important, au contraire. Mais il y a un acte de confiance à poser.
Confiance en qui ou en quoi?
Moi, je dirais d'abord confiance en Dieu, qui m'a donné cette terre pour y habiter. Et de croire que j'ai tout ce dont j'ai besoin sur cette terre sans avoir besoin de l'exploiter, de la piller. De vivre aux dépens aussi, parce qu'on n'en a pas trop parlé encore, mais dans l'Audate aussi, il y a aussi cette dimension sociale très forte, c'est-à-dire que je...
D'injustice ou de justice sociale.
Voilà, et en fait, je n'ai pas besoin de vivre aux dépens d'autrui, je n'ai pas besoin de vivre aux dépens des migrants qui souhaitent traverser la Méditerranée pour habiter en Europe et qu'on s'évertue à laisser aux frontières turques et libyennes. Je n'ai pas besoin de ça, en fait, pour vivre pleinement de la vie que Dieu veut me donner. Mais ça implique peut-être aussi de changer ma représentation de ce que c'est qu'une vie bonne et de lui faire confiance.
Et de renoncer à des choses.
De renoncer
ça, c'est peut-être le plus difficile.
De renoncer au moins à ses représentations ou à ses habitudes que j'ai prises qui, en fait, ne conduisent pas forcément à la vie. Et d'en prendre conscience et de les nommer et de le vivre assez librement, quoi. Parce que je pense que c'est un des enjeux aussi de l'écologie, c'est... Il y a beaucoup de culpabilité, en fait. C'est aussi ça qui bloque. Mais en fait, de reconnaître que j'ai vécu comme ça jusqu'à maintenant, ça avait du sens. Et je peux aussi imaginer d'autres chemins sans ressasser ce que j'ai fait jusque-là, qui, d'une certaine manière, avait aussi sa valeur et qui a aussi apporté du bon.
Mais la culpabilité, elle peut venir de soi. On peut se sentir coupable. Elle peut venir des autres, du regard des autres. C'est un poison, la culpabilité ? Ou au contraire, c'est un aiguillon qui peut de temps en temps nous remettre les idées en place ?
Ben, si je reprends le titre des paragraphes là, du pape, joie et paix, voilà, je dirais quand même l'invitation, c'est plutôt de redécouvrir. Je pense que ce qui est premier, ce qui met vraiment en route, c'est de vivre une expérience
positive.
Ouais, alors Ignace de Loyola dirait de consolation, quoi. C'est la consolation, c'est suivre la consolation. Après, il arrive parfois que j'ai des mauvaises habitudes et parfois c'est, on va dire, je sais pas si c'est la culpabilité, mais c'est ma conscience. Tout à coup, je réfléchis sur ce que je suis en train de faire et de vivre et je me rends compte que ça n'est pas du côté de la vie que Dieu me donne. Et donc oui, il y a aussi. Alors je ne sais pas si c'est la culpabilité, parce que le risque de la culpabilité, c'est qu'elle, en fait, elle enferme et qu'elle, et finalement, je ne bouge pas.
Elle paralyse un peu.
Alors qu'il y a quelque chose. Alors que voilà, je dirais, ce qui serait juste, c'est quelque chose qui me met en chemin. Parfois, je réfléchis sur ce que je fais et je n'en suis pas fier et ça me donne envie de changer. Et ça, on pourrait dire, il y a quelque chose du côté du don de Dieu qui m'est fait. On pourrait dire de me réveiller, quoi, de dire habitude que tu as jusqu'à maintenant, en fait, est-ce que vraiment ça t'aide ?
Et ça peut être une manière de choisir la vie, de changer de braquet ou d'option ou de direction.
Ben, je reprends cette image-là du week-end à New York, en fait, ou de la semaine, en fait. En fait, peut-être que j'ai à redécouvrir une manière de me détendre, de vivre des temps relationnellement riches, plus proches de chez moi. Et qu'en fait, c'est pas forcément moins bien. Mais pour ça, il faut que je me détache et que je renonce à un certain nombre de représentations, distinctions. Enfin, voilà, ça fait
renoncer
bien.
Renoncer à voir New York un jour, alors que c'est peut-être un rêve.
Ou peut-être d'y aller, mais une fois, et en allant faire autre chose avant et après.
Alexandre Masson, je rappelle que vous faites partie de l'équipe du centre spirituel du Châtelard, près de Lyon. C'est un éco-centre jésuite, dans lequel on en reparlera. Vous expérimentez tout un tas de choses qui peuvent permettre de vivre un peu plus sobrement. C'est d'ailleurs le thème de ces entretiens dans cette série Halte spirituelle. Vous avez parlé dans notre premier entretien. Vous avez employé cette expression « une vie bonne ». Qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne dans le cadre de ce qui nous occupe là, d'un souci de sobriété, d'une vie simplifiée ?
C'est une grande question. C'est une quête ancienne, y compris chez les philosophes grecs, par exemple. Ce qui met en route Platon, ce qui met en route Aristote, c'est cette recherche d'une vie bonne, enfin en tout cas du « qu'est-ce que c'est le bon ?». On pourrait dire l'éthique chrétienne, elle hérite aussi de cette philosophie. Et par exemple, vous ouvrez la somme théologique de Thomas d'Aquin, la deuxième partie morale sur qu'est-ce que c'est que la béatitude, quoi. Et donc, on relie cette question du bien ou d'une vie bonne à une vie avec le Christ, une vie en Dieu.
Et alors, là, on se situe d'un point de vue théologique et philosophique. Est-ce que il y a une mise en application de ces réflexions de façon très concrète, dans nos vies quotidiennes? Est-ce que ça peut se transcrire, se transposer, s'appliquer?
Pour moi, une vie bonne, c'est une vie... en tout cas, c'est pas simplement des critères extérieurs. Respecter la loi, pas respecter la loi, correspondre à telle image que je me suis fait de ce qu'était le bien ou le mal, etc. Mais c'est me laisser instruire aussi intérieurement, au contact des Écritures, au contact de la personne du Christ, à l'écoute aussi de ce que a à me dire l'Église du Christ. C'est me laisser instruire intérieurement sur cette manière d'incarner cette sobriété heureuse, par exemple, dont parle le pape François dans Laudato aussi. Donc je dirais, une vie bonne, c'est délicat, et parce qu'on voit bien que, c'est pour ça que j'ai du mal à répondre aussi, c'est qu'en fait, la représentation de ce que c'est qu'une vie bonne, elle évolue pas mal en fonction des époques.
Et de ce qu'on est et de qui on est.
En plus. Et du coup... voilà, quelque chose comme la crise écologique, ça vient justement précisément percuté ce qu'on imaginait être une vie bonne ou quelque chose de désirable. La crise des migrants, ça vient percuter ce qu'on imaginait qui était un modèle désirable de société, mais qu'on n'est pas capable d'assurer pour tous et qu'on assure aux dépens d'autres. Donc c'est ça qui n'est pas évident.
En tout cas, c'est pas une vie au cours de laquelle on accumule.
Ah bah, en tout cas, ça c'est sûr.
Les signes extérieurs de richesse, par exemple, ne sont pas forcément les signes d'une vie bonne.
Je pense pas. Ouais. Moi, je dirais, par exemple, pour moi, l'enjeu de la relation. Pour moi, une vie bonne, c'est une vie relationnellement riche. Que ce soit la relation à Dieu, la relation à soi, à son histoire, à son corps, relation aux autres, relation à la création. Moi, ce qui me donne de la joie de vivre, ce qui me met en route, qui me donne de l'enthousiasme, de l'élan, c'est une vie de surprises, de rencontres inattendues, de découvertes de choses que j'aurais pas imaginé vivre ou faire. Mais aussi une vie, du coup, de disponibilité à ces rencontres. Et ça, c'est là qu'il y a peut-être un travail, une responsabilité. Se rendre disponible à ce qui est donné.
Est-ce que le fait de répondre à tous nos désirs, par exemple, pourrait aussi nous permettre d'être heureux? Je ne parle plus de vie bonne, mais de ressentir un bonheur. On a envie de quelque chose. On a la possibilité ou les moyens matériels, financiers, psychologiques, j'en sais rien moi, d'y répondre, faisons-le.
Je dirais une distinction artificielle, mais qui je trouve quand même à sa valeur, c'est la distinction entre besoin et désir. Parfois on a besoin ou envie de telle chose ou de telle autre, on peut dire que c'est passager. Une fois que c'est comblé, une fois que j'ai satisfait ce besoin,
assouvi
ce besoin, il disparaît quoi. Et puis à l'inverse, par ailleurs, il y a le désir, quoi. Et on peut dire là, il y a un dynamisme plus profond, quelque chose de plus entier qui me met en route, qui est jamais complètement assouvi, qui se renouvelle, et qui passe aussi parfois par un renoncement à combler un certain nombre de besoins, quoi. Se dire, je suis pas réduit à mes besoins, ce dynamisme du désir, j'y serais peut-être d'autant plus attentif que je mets un petit peu en sourdine certains besoins immédiats. Pour retrouver quelque chose d'essentiel, quelque chose qui me met en chemin.
Alexandre Masson, dans les vies qu'on mène, il faut aussi faire avec des représentations, des codes sociaux. Accepter de rouler dans une voiture déglinguée, il faut l'assumer, quoi. Quand d'autres ont des voitures rutilantes, je prends cet exemple totalement au hasard, mais ça demande un certain courage, d'après vous, la sobriété, le renoncement à des choses matérielles qui peuvent nous situer aussi vis-à-vis des autres d'un point de vue social.
Je dirais oui, ça demande du courage parce que dès qu'on fait un choix un peu singulier, il faut l'assumer vis-à-vis d'autrui. Et donc là, oui, il y a du courage. Après, je dirais aussi que je pense qu'il y a de la joie. Voilà, moi, les gens que je connais, qui se sont engagés sur un chemin de sobriété par conviction écologique, aussi enracinés dans leur foi chrétienne. Je dirais que c'est plutôt des gens qui vont bien, enfin en tout cas qui ont du goût au nouveau mode de vie auquel ils cherchent à adhérer. Donc il y a une dimension de renoncement, il y a quelque chose d'onéreux, et en même temps, on voit bien, enfin en tout cas je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui cherchent à revenir en arrière après, quoi.
Mais est-ce que le choix de la sobriété, ça n'est pas un peu un luxe? Est-ce qu'on ne choisit pas la sobriété, justement, quand on va déjà bien, quand on peut se le permettre?
C'est possible. Après, je pense aussi que la question de la sobriété, elle se pose différemment en fonction... Alors, il n'y a pas que ça, mais si on prend, par exemple, la porte d'entrée sociale, si le contexte de la sobriété dont on parle, c'est la question aussi écologique, de la crise écologique, les responsabilités dans la crise ne sont pas du tout les mêmes. Et en fait, parfois, on dit L'écologie, c'est un truc de riche. Bah oui, mais en fait, en même temps, c'est essentiellement les plus riches qui, de fait, ont des comportements ou des modes de vie
qui aggravent la crise.
Bon, on peut dire ça, voilà. On peut dire les responsabilités.
Et c'est ce que souligne le pape François dans la date aussi. Ce sont les pauvres, les pays pauvres, et puis les populations les plus défavorisées qui sont les plus grandes victimes du réchauffement climatique.
Et puis qui, en fait, parfois on dit, le problème, par exemple, il utilise. Il dit, en fait, le problème, ça n'est pas les pauvres. Alors parfois, on pourrait se dire, finalement, par exemple, la question démographique, qui par ailleurs peut en être une, mais il dit, mais en fait, c'est pas du tout. Aujourd'hui, quand on regarde, si on prend par exemple le critère des émissions carbone, c'est plutôt des pays à faible démographie, mais riches et très pollueurs, qui émettent le plus par rapport à des pays pauvres. Où il y a effectivement une démographie beaucoup plus dynamique, mais qui en fait ne sont pas principalement concernés du côté des émissions en tout cas, parce que les émissions moyennes de ces pays-là sont très basses et parfois en dessous même de la cible qu'il faudrait atteindre pour limiter le réchauffement climatique. Donc c'est...
En tout cas, on peut s'interroger, nous, sur notre responsabilité de manière individuelle. Une fois sans sombrer dans la culpabilité et mortifère, mais sur des choix de sobriété qu'on pourrait poser, en particulier pendant ce carême, des options à prendre.
Ça, c'est sûr. Enfin, je pense qu'une grande partie des efforts qui doivent être fournis pour trouver une trajectoire respectueuse de la création du vivant humain comme autre qu'humain, elle est dans les mains des pays les plus riches et dans les pays les plus riches des personnes qui ont un niveau de vie plutôt correct ou supérieur. Alors après, ça n'empêche pas de se poser chacun la question dans sa vie, quel que soit son niveau de vie, en fait, où est-ce que c'est les lieux où j'ai à me convertir? Enfin, je veux dire, la conversion, c'est pas seulement pour les riches, mais quand même. Il y a quand même à entendre une option préférentielle pour les pauvres du Christ. Rappeler qu'il y a un des principes forts de la doctrine sociale de l'Église et que parfois on a du mal à entendre parce que ça peut être dérangeant ou incompréhensible. Une autre chose que je trouvais intéressante dans la question que vous me posiez, c'est est-ce que la sobriété a un coût ? C'est vrai que parfois, un certain nombre de modes de vie, je pense aux questions d'alimentation, on peut manger des produits de meilleure qualité, locaux, bio, ça a un prix. Donc est-ce que, de fait, ça exclut un certain nombre de personnes qui n'ont pas les moyens d'accéder à ce type de produits ? C'est une bonne question, je ne sais pas. Pour vous donner un exemple, au Châtelard, on travaille sur la transformation de notre système de restauration. Et on essaie que ça soit iso-coût, quoi. On essaie alors ça implique aussi de changer un peu les compositions des menus. Par exemple, manger un peu moins de viande. Ça tombe bien parce que c'est très émetteur en carbone. Mais normalement, le but, c'est que ça coûte le même prix avant qu'après. Et de croire que, certes, il y a certains produits qui sont plus chers. Mais en même temps, comme on mange pas tout à fait la même chose et pas forcément dans les mêmes quantités, normalement, d'un point de vue financier, ça s'équilibre.
Alexandre Masson, ce choix de la sobriété, vous avez décidé de le mettre en œuvre, de l'expérimenter de manière très concrète au sein du centre spirituel du Châtelard, qui se trouve donc près de Lyon, un centre spirituel jésuite, qui est désormais un éco-centre. Donc, vous faites partie de l'équipe qui a mis en œuvre cette expérimentation, cette nouvelle manière de vivre très concrète. D'abord, est-ce que c'est quelque chose de joyeux ? Est-ce que c'est quelque chose d'enthousiasmant ?
Alors, je répondrai sans hésiter oui. J'ai participé depuis le démarrage de l'exploration de l'année de discernement l'an dernier qui a conduit à décrire un peu la vision du projet, et puis depuis juin dernier, plus la phase de mise en œuvre. Et en fait, c'est très joyeux, notamment moi ce que je retiens, c'est que ça nous met vraiment ensemble. que ce soit avec d'autres jésuites engagés dans la mission, avec le directeur du centre qui est un laïc, qui a été nommé aussi à cette occasion, et puis avec pas mal de bénévoles qui s'intéressent au projet et qui souhaitent y participer. Et je dirais, moi, c'est peut-être la plus grande joie, c'est ce côté aventure humaine aussi, aventure à plusieurs. Et on sent que le projet vient répondre aussi à des aspirations. Voilà, vient réveiller aussi chez les uns ou les autres des attentes, des espérances que peut-être qui avaient été un peu enfouies.
Alors, on a parlé au début, dans nos précédents entretiens, de renoncement, de sacrifice, de discerner les envies ou les désirs qu'on peut assouvir. Enfin, donc, vous, en vivant de manière très concrète dans cette nouvelle dynamique, vous pouvez dire que c'est quelque chose de vertueux ?
Alors, on est au démarrage, hein. C'est-à-dire que ça, on a imaginé le projet et puis là, on s'y met. Donc, je pense qu'il faudra encore attendre quelques années pour vraiment recueillir les fruits. Et peut-être pas aller trop vite, pas tirer des conclusions trop vite. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, il y a un élan. Ça attire, ça met ensemble.
Donc, tous les feux sont ouverts, là, pour le moment.
En tout cas, je dirais qu'il y a Après, voilà, on est quand même très soutenus, aussi financièrement, humainement. Je pense qu'on peut pas faire ça partout, dans n'importe quelle condition. Mais là, vu les conditions qui sont les nôtres, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très enthousiasmant.
Alors concrètement, ça passe par quoi ?
Voilà, le projet, il y a trois piliers. Le premier pilier, qu'on appelait transition du lieu, il s'agit en fait de se dire un éco-centre spirituel, avant de toucher au programme ou au type de retraite qu'on propose, c'est avant tout un lieu où on va un peu changer notre manière de vivre. Donc ça touche précisément à la question de nos émissions, là, de la sobriété. Donc ça touche à changement de notre système de restauration, pour cuisiner avec des produits locaux, de saison, de l'agriculture biologique ou fermière. Mmh. On touche aussi à la composition des menus, etc. Deux, tout ce qui touche à l'aménagement des extérieurs. On a 35 hectares autour de la maison. Pour vous donner un exemple, il y a des brebis qui sont arrivées à l'automne. Et puis, trois d'entre elles ont donné naissance à 5 agneaux agnelles. Et donc, maintenant, le parc du Châtelard est habité par de nouveaux habitants, et on voit des familles le week-end aller regarder les brebis, des voisins, etc. Et en fait, c'est chouette parce que ça vient nous inviter à redécouvrir ou à se réapproprier un peu l'espace qu'il y avait autour de nous et à prêter attention aux différents êtres vivants qui l'habitent. Et puis, troisième aspect de ce transition du lieu, c'est tout ce qui touche au bâtiment, avec un projet immobilier assez important, un gros sujet de rénovation thermique. Et puis, autre exemple de ce programme immobilier, une chapelle. On aimerait bien construire une chapelle qui intègre pleinement le rapport à la création dans l'espace liturgique.
Voilà. Alors ça, c'est pour le bâtiment.
Oui, premier pilier. Deuxième pilier, la transition du programme.
À la des fois, propositions, vous
des
voulez
propositions,
dire.
Des propositions, voilà. Et donc là, on peut dire, il y a à la fois, on se dit, on est un centre spirituel jésuite, donc le cœur du programme, c'est quand même les exercices spirituels, mais aussi la formation à l'accompagnement spirituel et l'accueil de couples, notamment qui se préparent au mariage. Et là, à chaque fois, pour chaque pilier, on se dit, est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelques propositions où la dimension du rapport à la création est mieux mise en valeur comme au service d'une expérience spirituelle et au service d'une expérience spirituelle chrétienne.
Donc le bâtiment, les propositions, ouais. Troisième axe.
Et, transition de ce qu'on appelait l'écosystème humain, c'est-à-dire toutes les personnes qui viennent servir le projet. Et donc là, on pourrait dire l'axe fort, c'est l'arrivée d'un ce qu'on appelle un collectif de bénévoles résidents, c'est-à-dire imaginer une présence permanente sur place, pas que jésuites, mais aussi des familles, l'un ou l'autre couple de jeunes retraités, telle personne en précarité qui viendrait habiter un peu longtemps sur place, pour justement incarner ce mode de vie sobre et heureux, que ce soit pas simplement un discours, mais que les personnes qui viennent au Châtelard puissent rencontrer des personnes qui incarnent le projet, qui font vivre la maison et qui donnent envie. Voilà.
Alexandre Masson, ce que vous venez de nous expliquer, dans quelle mesure est-ce que, alors transposable peut-être pas, mais dans quelle mesure est-ce que ça peut donner des idées à des auditeurs qui nous écouteraient, à des particuliers, à des individuels, des familles, des couples, pour s'engager dans une dynamique un peu comparable?
Si, je pense que effectivement le but c'est que ce soit, il y a un côté laboratoire qui puisse servir. On expérimente des choses, par exemple. Il y a un mois, on a réinternalisé notre cuisine pour mettre en place notre nouveau projet alimentaire. Donc, ça faisait 30 ans qu'on travaillait avec une société de restauration. Là, on bascule sur un nouveau modèle. On apprend semaine après semaine. Et puis, on se trompe et on tâtonne et on cherche des solutions. Et c'est comme ça, en fait, pour un peu tous les sujets. Et donc, c'est une chance d'avoir ce côté laboratoire qui pourra servir après à la transition d'autres lieux et qui peut servir aussi de source d'inspiration.
Ça suppose de ralentir. Parce que préparer la cuisine pour je ne sais combien de retraitants, par exemple, ça demande du budget, ça demande d'y consacrer du temps. Et donc, pendant qu'on fait ça, on ne fait pas d'autre chose.
Vous pointez un point sensible qui est effectivement ce rapport au temps, c'est-à-dire on a quand même beaucoup tous à faire et puis on a ouvert pas mal de chantiers en même temps. Et donc, il y a un enjeu effectivement à ne pas aller plus vite que la musique, à respecter un tempo qui n'est pas le nôtre, qui est aussi celui de l'esprit en travail en nous, autour de nous. Et du coup, oui, c'est sensible. Parce qu'on se rend compte quand même aussi dans ces... Enfin, en tout cas, c'est mon sentiment, là, depuis un an et demi que je travaille sur ces sujets. Dans les milieux engagés en écologie, il y a quand même une conscience de la crise et d'une certaine urgence du changement. Et donc, comment est-ce qu'on concilie cette urgence du changement avec le fait que, oui...
C'est parfois très lent.
C'est parfois très lent et puis en tout cas on change pas assez vite ou on aimerait que ça change plus vite et d'un autre côté comme vous dites ça demande du temps et donc la ressource temps est un peu la ressource rare dans les milieux qui s'engagent dans la transition.
Mais est-ce que ça n'est pas un des points cruciaux de cette problématique, notre rapport au temps? Est-ce que ça n'est pas le lieu où on peut mettre en place des choses le plus facilement quand même? Faire moins, s'accorder plus de temps pour faire les choses. Et ça, on est tous concernés par ça. Et on a tous plus ou moins la maîtrise de nos agendas quand même. Plutôt moins que plus.
En fait, il y a beaucoup à faire. C'est ça qui est paradoxal, c'est qu'à la fois, il s'agit de faire moins, à la fois, il y a beaucoup à faire.
Mais est-ce qu'il ne faut pas faire
c'est
moins?
C'est faire autrement. Je ne sais pas. C'est faire...
C'est là qu'il faut peut-être renoncer.
C'est faire bien ce qu'on fait. C'est faire un petit pas. C'est compliqué, je trouve. Mais c'est juste ce que vous dites. Je remets pas du tout en question, mais je trouve vous touchez un point sensible. Parce que y a cette conscience de la crise. Voilà. Je pense que cette conscience de la crise, elle mobilise, elle met en route. Elle l'invite à agir avec détermination. Enfin, moi, c'est ce que je pense, c'est qu'on manque de lieux justement d'incarnation. On parle beaucoup crise écologique, conscience des enjeux. Maintenant, les gens sont plutôt au courant des enjeux. Mais par contre, d'avoir des vrais lieux d'inspiration, de ressourcement, d'enracinement, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, en fait, il y a un vrai enjeu de faire émerger ces lieux pour qu'ils fassent tâche d'huile, pour qu'ils se mettent qu'ils vont travailler en réseau, etc. Il n'y a pas du tout que le Châtelard. Mais du coup, faut pas non plus trop traîner. Et puis moi, je dirais aussi comme religieux, quand je regarde le Christ dans l'Évangile, c'est aussi quelqu'un qui avait une vie bien occupée et qui se retirait parfois la nuit pour aller prier son Père et pour prendre mais qui était quand même très sollicité quoi. Alors que moi, je regarde pas mal Jésus très sollicité comment il faisait et il disait pas il faut faire moins quoi. Il disait pas bon là ça y est, ben il disait parfois moi je vais dans une autre ville quoi, ou aussi où il renvoyait les foules.
Il était dans une urgence lui aussi.
Je pense qu'il y avait une forme d'urgence aussi, ouais, d'urgence d'annonce du royaume, urgence de vie, ouais, urgence d'annonce du royaume qu'il a pris tout entier et après lui qui a pris tout entier les disciples quoi.
Ça crée une tension.
Une tension, en tout cas, oui, je pense que ça crée une tension, ouais. Mais pas forcément mauvaise, mais ça crée, enfin, ça met en mouvement, quoi. Ça met en route. Et oui, ça, on est sollicité.
On a bien senti la tension que peut susciter parfois l'urgence écologique, la crise environnementale dans laquelle on est. Et la lenteur ou la difficulté à en mettre en œuvre des réponses à la hauteur. Est-ce qu'il vous arrive de désespérer, Alexandre Masson, quand vous pensez à ça ? Ou bien votre espérance est plus forte, plus grande ?
Alors, désespérer, je dirais pas. Je dirais pas désespérer. Je dirais que je suis pas très optimiste. Par rapport à la capacité qu'auront les décideurs politiques à prendre les décisions qui s'imposent suffisamment vite. Donc je pense qu'on va vers des périodes difficiles au plan écologique, enfin sur le plan écologique aussi sur le plan social, je pense, et qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ça s'améliore beaucoup dans les prochaines années.
Et qu'est-ce qui vous fait tenir alors ? Qu'est-ce qui vous donne envie de continuer à vous engager sur ce chemin que vous estimez être un chemin de vie et qui répond à l'appel dont on parlait au début de ces émissions, choisis la vie.
Moi, ce que je pense, c'est que ça, c'est le contexte. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on se positionne dans ce contexte. Et pour moi, la question de l'espérance, elle est centrale. Et je pense que c'est vraiment ce que les chrétiens, enracinés dans l'expérience du Christ, peuvent apporter d'ailleurs à pas mal de personnes engagées en écologie ou conscients des enjeux, parce que le Christ a traversé aussi, on pourrait dire, une crise. Et dans la passion, on pourrait dire la passion, l'histoire de Jésus à vue humaine se termine mal. Et pourtant, jusqu'au bout, il a aimé. Et nous, chrétiens, alors à la lumière de sa résurrection, on croit que sa vie jusque sur la croix, mort comme un malfaiteur, a eu de la valeur, et que jusque sur la croix, tous les petits gestes d'amour qu'il a posés ont de la valeur parce qu'ils participent de l'amour éternel de Dieu dans la danse trinitaire des trois personnes et aussi de l'amour éternel de Dieu pour sa création. Et donc, ça a de la valeur. Et en fait, quel que soit finalement le contexte, quel que soit à vue humaine la réussite ou pas de la transition écologique, il s'agit de tenir debout et de donner et de vivre une vie qui a un sens, une vie donnée aux autres, une vie aimante, une vie en relation avec Dieu. Et ça, c'est à portée de main. Et ça, c'est ce que le Christ nous permet de vivre. Et donc, moi, mon espérance, c'est ça. On a écrit un article avec Xavier de Benazet, avec qui je travaille au Châtelard, dans le dernier numéro de la revue Christus. Un article qui s'appelle « Servir la vie quand tout s'effondre ». C'est-à-dire croire que même si à vue humaine, on peut imaginer des effondrements, et encore, il s'agirait de définir ces effondrements et savoir de quoi il s'agit exactement, mais combien même, on pourrait dire, tout le récit qu'on commence à entendre du côté d'une collapsologie, quel que soit ce récit, il s'agit toujours de servir la vie. Et ça, ça a du sens, ça c'est enthousiasmant, ça ça a du goût.
Et ça, on peut le choisir.
Et ça, on peut le choisir.
Le décider.
On peut le décider. Comme le Christ a décidé, y compris dans les oppositions qu'il a rencontrées, de continuer à être aimant.
C'est pour avoir la conscience tranquille ? Ou c'est plus que ça ?
Moi, je crois pas. Je pense que c'est... parce que je pense que c'est pas simplement une affaire de personnel, soit avec soi. Je pense que ça a de la valeur aussi pour les autres, pour le monde. Et je pense qu'on a besoin de personnes qui restent à l'intérieur de cette tension là dont que vous pointiez bien aussi dans mon discours, de croire que à l'intérieur de cette tension il y a quelque chose d'une paix qui est donnée et qui a de la valeur. Mais c'est un acte de foi, le même que celui qui nous fait croire que le Christ est ressuscité.
Et ça, le carême est quand même une bonne un bon temps quoi, pour s'interroger sur ces questions-là.
Eh ben, on est en plein dedans.
Vers quoi on va?
Et puis, en fait, voilà, de distinguer, on pourrait dire, un peu deux petites musiques différentes, quoi. C'est-à-dire la petite musique de la désespérance, de l'effondrement, de à quoi bon, de tout est foutu, de voilà. Et puis, une autre petite musique qui est plutôt celle de... bah oui, les choses vont pas forcément comme on aimerait, mais en fait, on n'est pas maître de l'histoire. Et puis, en fait, quelles que soient les circonstances, ça a toujours de la valeur de servir la vie. Et donc, ça vient interroger, bah, qu'est-ce qui a vraiment du sens ? Pas simplement à courte vue pour moi aujourd'hui, mais qu'est-ce qui a valeur d'éternité ? Dans ma vie, qu'est-ce qui a valeur d'éternité ?
Et donc, ça donne aussi du sens aux gestes, aux décisions, quelles qu'elles soient, si petites soient-elles, qu'on peut tout d'un coup se mettre à adopter et à prendre.
Exactement. Parce que dans l'ordre de l'amour, il n'y a pas de petites décisions. Parce que tout acte a de la valeur en soi. Et que même des choses invisibles, aux yeux des autres, en fait, peut-être ont énormément de valeur. Et ça me ramène à l'évangile du mercredi décembre. Voilà, quand tu pries, mets-toi... enferme-toi dans ta chambre la plus cachée et prie le Père et lui sait et te le rendra. Ou quand tu jeûnes, parfume-toi la tête. Ou quand tu donnes, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, etc. C'est-à-dire, on n'est pas là pour être bien vu, mais poser des actes qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et on pose l'acte de foi que ça a de la valeur aussi pour le monde.
On est loin, Alexandre Masson, de la fameuse expression « après moi le déluge », là. C'est-à-dire que tout compte.
Oui, tout à fait, oui.
Tout compte et tout a du poids, même si ça a l'air d'être un poids plume. Vous pensez que tout ça, ça peut malgré tout changer le monde ? Ou c'est pas très réaliste, ce que je dis là ?
Pas de la même manière que la mort d'un homme... un juif du 1er siècle sur une croix a changé le monde.
Mais en quoi ça a changé le monde ?
Eh bien voilà, c'est une bonne question.
Le monde,
parce
qu'il
continue
a pas
à y avoir des guerres,
bien,
il continue à y avoir des choses qui vont mal, des gens qui souffrent. Mais bah, y a une, je dirais, il y a une autre... il y a quelque chose d'autre aussi, possible.
Un chemin de vie.
Voilà. Mais qui ne fait pas fi du reste, hein, qui n'efface pas tout le reste, mais qui dit qu'il y a quand même un chemin de salut. Enfin bon, voilà, pour moi, ça touche à la question du salut, en fait, la question de l'espérance du salut. Mais le salut, ça ne... bah, il est donné au milieu aussi des tensions, au milieu des affrontements, des conflits, des contradictions aussi de notre propre existence. Et c'est de consentir à cela. Et en même temps, de croire que, bah oui, il y a du... il y a un chemin possible.
J'en reviens au Deutéronome. On pourrait être tenté de dire, bon, de toute façon, foutu pour foutu, profitons quoi.
Bah, c'est...
Choisis la vie, c'est pas ça. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie.
Bah, je pense que oui, voilà, il y a aussi la question de la solidarité, enfin, dans le profitons, il y a aussi la question de la solidarité avec tous les vivants et les générations passées et futures. Et croire que la terre que j'ai reçue, bah, je la reçois comme un don et que, dont j'ai la charge de prendre soin pour pouvoir transmettre cette terre aux générations qui suivront. Et c'est sûr, s'inscrire dans une chaîne de transmission de quelque chose qui m'est donné, et que je suis chargé de transmettre à d'autres, ça change aussi la manière de se positionner par rapport au profit et à la consommation. Ça me fait penser par exemple à la question des enfants. Aujourd'hui, pas mal de personnes s'interrogent sur est-ce que avoir des enfants, c'est écologique ? Ou est-ce que... voilà. Et donc, il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui disent qu'ils n'auront pas d'enfants, Et notamment, pas seulement, mais notamment, ils invoquent des raisons écologiques.
Et la en tendance fait, No Kids.
Voilà, exactement. Et on en a entendu parler récemment dans la presse.
Et sur RCF.
Voilà. Et en même temps, moi, j'ai écouté là, un philosophe qui disait, bon, lui, il a des enfants, mais du coup, il disait, je me suis posé cette question, très engagé en écologie, qui a un mode de vie, pour le coup, très sobre. Et il disait, je me suis pas mal posé cette question, et je me dis, moi, comme père, quand je regarde mes enfants, en fait, au contraire, avoir des enfants, ça m'investit d'une responsabilité. Et je me dis, en fait, quelle terre je vais leur laisser. Et donc, en fait, c'est une motivation supplémentaire, parce que ça matérialise un peu ces générations futures à qui je souhaite transmettre la terre. Et comme père, je me dis, voilà, la terre, je l'ai reçue, et je vais la leur transmettre. Dans quel état vais-je la leur transmettre? Et je trouve que c'est, voilà, j'ai bien aimé entendre ça, parce qu'il s'est posé réellement la question. Il s'est dit, très au fait de tous les débats sur ces questions.
Et de tous les enjeux.
Et il dit, moi, au contraire, avoir des enfants, c'est ça qui me met en route. Voilà, pour moi, c'est un exemple d'un acte d'espérance. De croire que ça vaudra encore la peine de vivre sur Terre d'ici quelques décennies. Et donc, ça engage aujourd'hui. Là où, parfois... Et donc, ça rejoint aussi le Deutéronome. Voilà. Responsabilité, liberté, responsabilité. Et en fait, dans quelle mesure les effondrements qu'on craint, parfois, c'est pas nous-mêmes qui y contribuons, quoi. Et dans quelle mesure se mettre dans une autre perspective, de croire que la vie va continuer et qu'il vaudra la peine d'être vécue, ça vient pas aussi modifier nos comportements concrètement aujourd'hui.
Merci beaucoup, Alexandre Masson, de nous avoir accompagnés dans ces réflexions. Je rappelle que vous êtes jésuite, que vous faites partie de l'équipe du centre spirituel Le Châtelard, à côté de Lyon, qui est désormais un éco-centre, qui propose des tas d'activités. Merci encore à vous. Et puis merci à Christophe Morag, qui était à la technique.
Merci Véronique.